soir, c'est la première de le Petit Mexico. Je suis ravi de faire cette émission qui tourne sur les plaines. Une émission qui sera consacrée, donc aux musiciens de la région, les artistes de la région, que ce soit de Châtellerault, Poitiers, on ira même peut-être un peu plus loin. Le temps que je me familiarise avec la technique, ça viendra rapidement, vous inquiétez pas. Bon, pour cette première émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir un musicien que je suis sûr vous connaissez, en tout cas si vous avez été dans la région au cours des 10 dernières années, forcément vous l'avez vu. C'est le premier invité et quelque part un peu le parrain de l'émission. Il a dirigé le département musique actuelle du Conservatoire de Châtellerault. Il a aussi enseigné à Niort, à Poitiers, à La Rochelle. C'est sûr, si vous avez suivi un cursus universitaire ou musical au Conservatoire, vous l'avez forcément rencontré. On l'a entendu sur les albums de Lomé. On l'a entendu sur les albums de Step in Fluid. Il a même fait la première partie de Deep Purple. Juste incroyable. Il est arrangeur, compositeur, entre jazz, classique, rock, prog, de la musique urbaine à la musique de film, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gérald de Villain.
Oh yeah. Merci Tony.
Bonsoir Gérald.
Quel accueil.
Mais je t'en prie Gérald. Comment ça va Gérald?
Ça va super bien.
Ça va?
Ah ouais, l'accueil est très bien ici, il fait chaud, il y a de la lumière.
Ouais.
Ouais, voilà. Parfait.
C'est cool.
Merci Tony pour l'invitation.
Je t'en prie. Tu me fais un immense plaisir de venir sur cette première dans cette émission. Et puis, encore une fois, je suis sûr que tout le monde te connaît, mais on va profiter de quelques minutes, des quelques premières minutes d'antenne pour faire découvrir les nouvelles compositions que tu as sorties là, il y a quelques mois. C'est ça,
yes.
C'est tout chaud, hein.
Ouais, il y a des choses qui sortent régulièrement, donc il y a toujours du tout chaud.
Ok, voilà. Ok, ouais.
C'est l'idée, en fait, ouais, vraiment d'être présent régulièrement.
On en parlera parce qu'il y a eu un changement dans ta vie récemment, là, as un changement de carrière complet.
Exactement, ouais. Qui a énormément d'importance dans ma vie globale.
Ouais.
Voilà.
Ok, alors on va écouter tout de suite une première composition qui s'appelle « Toujours plus haut ».
Ah oh yes.
Allez. Thank you. Voilà. Voilà. Merci Gérald, de belles compositions.
Merci. Merci à toi.
C'est quoi Gérald de ces compositions, ça, tu nous racontes un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que voilà, et puis juste me permettre pour nos auditeurs rappeler un petit peu le programme de la soirée. Mm-hmm. Voilà, on va parler un peu de tes compositions. Ces quatre fameuses compositions, là, on vient d'en écouter deux. Après, on parlera un peu de tes inspirations. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'a fait venir à la musique, comment t'en es venu là, qu'est-ce qui a transformé le Gérald qu'on connaît en ce musicien exceptionnel que tu es. Oh, et puis après, on profitera de ta présence et puis de ton piano, parce que tu es venu ce soir avec ton piano.
Exactement.
Et tu nous feras un peu de live. C'est ça?
Et oui, exercice pas facile, de passer de la parole au piano.
Ben oui, mais c'est tout l'exercice et tout l'art de l'émission, là, de te mettre un petit peu...
Un petit peu à nu.
À nu, voilà. C'est ce que je souhaite, moi, ce que je souhaite, c'est sentir ce qu'ont les musiciens, ce qu'il y a derrière eux, tu vois, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, bien sûr, enlever la carapace.
Ouais. Allez, on revient sur sur ces morceaux-là.
Bah, en fait, c'est donc quatre morceaux, c'est des petites miniatures, hein, comme vous avez pu entendre. Ça ne dure pas longtemps, c'était vraiment dans l'esprit de la musique d'édition.
Okay.
C'est-à-dire que de la musique qui puisse être utilisée pour du catalogue musical.
Okay.
Donc j'avais fait dans cet esprit-là, en fait, je t'avoue que j'écoute de la folk depuis un an et demi, en fait. C'est une musique qui m'a fait pas mal de bien, en fait, revenir à quelque chose de, entre guillemets, simple, mais simple dans le son, tu vois, dans la construction musicale, et quelque chose d'assez naturel. J'avais vraiment besoin de ça dans mes écoutes.
Okay.
Et en fait, voilà, ça faisait partie de mon quotidien musical.
Okay.
Et quand j'ai travaillé justement pour proposer des compositions à différentes boîtes d'édition, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, c'est-à-dire de la folk. Mm-hmm. Mais sans guitare.
Ah, sans guitare.
Voilà, parce que
il n'y a pas du tout de guitare dans ce qu'on vient d'entendre.
Alors je triche. Il y en a un tout petit peu, vraiment ce qu'on appelle en strumming, palm muting, vraiment au fond pour driver un peu, voilà. Okay. Mais en fait, on l'entend quasiment pas.
C'est marrant parce que vraiment on a cette balade là, ces deux morceaux qu'on vient d'entendre, mais on entend encore en fond sonore là. On a vraiment le côté folk là.
C'est ça en fait. Il faut réussir à décortiquer cette esthétique, l'analyser et puis en retirer justement les bons outils.
Ok.
Et puis on va dire imiter la guitare avec le piano, c'est-à-dire au niveau des ce qu'on appelle les voicings, c'est-à-dire l'organisation des accords et puis la façon en fait de jouer.
Donc
voilà, l'idée c'était de faire de la folk avec les éléments folk mais sans la guitare qui est quand même l'instrument emblématique de la folk.
Et toi tu joues un peu de guitare Gérald?
Non. Enfin je peux faire 2-3 notes quand il y en a besoin pour une production mais non, je suis pas guitariste, absolument pas.
Ok. Allez, on va pas tarder et puis on va s'enchaîner tout de suite à un troisième titre. Les titres sont. Comment tu vas chercher tes titres là? Parce que les deux premiers c'était toujours plus haut, détachement. C'est quoi? C'est une projection? Tu te fais une image ou c'est un titre qui te vient après la composition?
Alors, avant de composer, il y a toujours plein d'images. Voilà, je rentre dans la composition quand tout est construit dans ma tête.
D'accord.
En fait. C'est-à-dire que je pose mes mains sur le piano vraiment quand c'est le moment vraiment d'y aller.
Okay.
Pour éviter de tomber dans des schémas déjà préétablis, dans des choses qui sont dans mes mains. Donc je fais vraiment ce côté-là très imagé en fait.
Okay.
Donc j'ai besoin de me retrouver dans le silence, seul, pour pouvoir justement imaginer des choses. Et puis ces quatre compos en fait sont vraiment dans l'idée du voyage en fait.
D'où le titre.
D'où les titres, voilà. Et du van life, c'est-à-dire la vie en van. Où on va voyager avec son camion, etc. Okay. Quoi. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, on en reparle tout à l'heure. On va quand même faire écouter le troisième morceau qui s'appelle En marchant. On va écouter tout de suite En marchant. formidable. Vraiment une invitation au voyage, hein. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est l'idée, ouais. Bravo Gérald, ces compositions. Et l'exercice de le faire du coup sans guitare.
Oui.
Alors que là, vraiment, on a cet esprit. Ouais, l'image du Volkswagen van, en fait. On se met dans un van et puis on trace la route.
Et on trace. Ouais. On ne sait pas où on va, mais on trace.
Et sur ces titres-là, tu ne t'es pas contenté que de faire l'audio. Tu as aussi collé des images pour imager un petit peu le son, c'est ça?
Bah voilà, effectivement, pour que ça soit encore plus vendeur, j'ai collé des images, donc des films qui sont que tu peux acheter, en fait. Mm-hmm. Hein, tu as les licences.
D'accord.
J'ai fait un petit montage et ça colle super.
Ben oui, voilà, t'as des super, vraiment de superbes images là. J'invite
dans un fjord,
voilà.
Et ils sont dans leur van et ils sont heureux.
Un couple, ouais, c'est le clip qu'on retrouve sur YouTube là avec un couple, ouais. Voilà, qui se balade dans leur van, qui vont sur un pont là au milieu du fjord. Et,
ouais, exactement.
C'est très joli.
Ouais, c'est ça.
C'est très
ça
joli.
Ça fonctionne.
Ben ouais.
Ouais.
Écoute, c'est tellement bien. Moi, j'ai envie de. Il y en avait quatre. La quatrième, et
c'est
puis
ça.
Et puis voilà.
Et puis on passe à autre chose.
Voilà. Puis, cool. Puis surtout, on se fait plaisir. Ouais. La compo d'avant s'appelait En marchant, et celle-ci s'appelle Sur nos terres. Dis donc, moi c'est formidable. Et là, du coup, il y a pas du tout de guitare.
Ah non, là, il y en a.
C'est,
pas, là.
C'est juste incroyable parce que là, moi, je me la projette en fait la guitare, je me l'imagine.
Ouais,
exactement. Là, c'est vraiment, on a vraiment un côté bluesy là.
Ouais.
C'est incroyable.
C'est ça.
Bravo Gérald.
Merci bien.
Bravo, bravo. Et alors, l'objectif de tout ça, Gérald, c'est
l'objectif de tout ça à long terme.
Ouais.
Parce qu'il faut toujours voir loin.
Ouais.
En fait. Hein. C'est de pouvoir composer un jour une musique de film.
Ah, ça serait... voilà. Ah oui, c'est ça, en fait. Ouais, bravo, ça serait formidable.
Ouais, ça serait formidable,
ouais.
Effectivement. Donc, c'est en développement. Ça fait partie, justement, comme tu disais tout à l'heure, de ce virage, tu vois, que j'ai entrepris dans ma vie professionnelle. Et l'objectif, c'est ça.
D'accord. Voilà. Et là, toutes les plages, enfin, tout est de toi, c'est ça. Tout sort de ton studio.
Tout sort de mon studio. Les batteries,
sifflements,
aussi,
les batteries.
Les sifflements. Les batteries sont jouées au doigt.
Ah, les batteries sont jouées au doigt. Ouais.
Avec des super. Enfin, on a des super outils maintenant. En 2024, c'est juste incroyable. Donc là, tout est sorti de mon studio. Voilà, batterie, basse.
D'accord.
Les instruments lead, le sifflement. Il y a aussi des bacs, c'est-à-dire quelques chœurs, quelques voix. J'ai enregistré. J'ai fait le mix master.
Ok. Bravo. Voilà. Bravo, enfin, en tout cas, c'est vraiment de. Enfin, si les faits, c'était de vouloir projeter les gens, emmener les gens, enfin, moi, en tout cas, moi, ça m'a emmené. C'est vraiment idéal. Enfin, je te l'ai confié quand on a préparé cette émission. Moi, c'est vraiment très cinématographique, ces compositions. Ça te donne vraiment envie de. Même sans les images, tu te projettes plein de choses, tu te racontes plein d'histoires, tu vois ces morceaux de composition un peu partout. Tu te dis, tiens, c'est une fin de film, que ça soit un monde féerique ou pas. Peu importe, ou une histoire une histoire à la Tati ou je ne sais quoi, enfin voilà, c'est un film quoi, vraiment tu te projettes.
C'était l'objectif. Bah écoute, a priori c'est réussi.
Bravo.
Merci.
Bon, mais tout ça c'est pas venu n'importe comment, parce que t'as pas commencé la musique hier, Gérald.
Ah non, j'ai commencé la musique, j'étais tout jeune.
T'étais tout
jeune. Je suis moins jeune. Mais c'est l'expérience. Et j'en suis là maintenant parce que j'ai passé toutes ces étapes.
Okay.
C'est pas venu comme ça.
Quand on a préparé l'émission, je t'ai demandé de m'envoyer quelques morceaux. Et le premier morceau que tu m'as sorti, et j'aimerais bien le faire écouter un petit peu à notre public. C'est un morceau de musique classique, un morceau de Ravel, le second mouvement.
Exactement, voilà, on va juste en sol.
En sol majeur, voilà, c'est la partie adagio. Je vais la lancer et puis on va écouter ça un petit peu. On va prendre un peu le temps d'écouter un peu de classique sur Radio aux Ondes.
Bien sûr.
Ça fera un peu de plaisir à tous nos éditeurs qui aiment le classique. Et puis on en parle après. C'est l'orchestre qui rentre. Bravo, il est superbe ce pianiste. C'est incroyable ce jeu détaché qu'il a. On sent qu'il appuie sur chaque touche. Il est juste incroyable. Et tu n'as pas choisi. C'est un morceau, un titre de Ravel. Mais tu m'as bien demandé expressément un pianiste spécialement qui s'appelle donc Roger Muraro. C'est
exactement.
Quelqu'un que tu connais, toi ?
Non, je ne peux pas dire que je le connais. J'ai eu la chance de le rencontrer. Quand je jouais avec l'ensemble Intemporel,
d'accord.
Qui était un trio de musique classique. Et en fait, par diverses circonstances, on avait joué pour un lieu à côté de Lyon. Et en fait, Roger Muraro est arrivé pour nous coacher un petit peu.
Okay.
C'était une grosse surprise parce que Roger Muraro est pour moi... l'ambassadeur du piano français, que ça soit Messiaen ou Ravel, et c'est fin, c'est fluide, c'est comme ça doit être, et ça marche comme ça.
Moi, j'ai pas ta culture de la musique classique, mais on sent toute la respiration qu'il a là, sous les doigts. On sent vraiment dans cette introduction là, quand il joue le thème.
Oui.
C'est vraiment très posé, c'est vraiment très lyrique.
Exactement, c'est serein.
Et puis, comme tu dis, il y a pas de trop. C'est pas de la fioriture,
pas du tout.
Je cherche pas à faire du romantique pour faire du romantique,
du rubato.
C'est juste posé avec tout le sérieux, tout le poids qu'on doit donner à chaque note, c'est juste impressionnant.
Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça qui est... La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire en musique.
Mmh. Ben, oui. Ouais. Ben, après, quand on a le talent de ce monsieur-là, c'est... Voilà, c'est, effectivement, c'est... C'est, en tout cas, bravo. Donc ça, c'était Premiers Amours, ça, Premiers Amours. Ou pas, ou en tout cas, c'est les premiers contacts que tu as avec la musique, c'est ça? Il y a la musique classique qui va à un moment forger ta jeunesse?
Oui, enfin, la musique classique est arrivée quand même plus tard.
D'accord.
Ouais, elle est arrivée plus tard, c'est pas la musique avec laquelle j'ai commencé.
D'accord.
C'est pas cette esthétique-là avec laquelle j'ai commencé la musique. La musique classique est arrivée plus tard avec les rencontres, au lycée surtout.
Ok.
Et puis après, avec l'entrée au conservatoire, je suis rentré au conservatoire assez tard.
Okay.
Et tu vois, j'ai plein d'anecdotes hein, avec ce morceau, parce qu'il me suit en fait. Hein. Mais en fait, je l'ai découvert grâce à un prof de FM au conservatoire d'Orléans.
Okay.
Parce qu'il s'avère que y a un morceau de Jacques Brel qui est extrêmement inspiré, tu vois, de cette intro de Ravel.
C'est quoi le titre du...
C'est Les Désespérés.
Ok.
Et c'est juste incroyable. Enfin, okay. le texte, il est dessus, il est posé. On a l'impression d'entendre du Ravel.
D'accord.
Et en fait, ce prof de FM nous a comme une porte d'entrée, tu vois, nous a fait découvrir la musique de Ravel grâce à Jacques Brel.
Ouais, vous sentez incroyable. Jacques Brel et...
Voilà.
Okay.
Du coup, après, je l'ai réutilisé même dans des cours, forcément, avec une pianiste qui avait fait le rapprochement entre les deux.
Ok. Ouais. Donc ça, c'est plutôt ta formation musicale, mais c'est pas vraiment ce qui t'a drivé. Et y a un autre morceau que tu m'as cité, et puis je propose qu'on l'écoute. C'est un morceau d'Otis Redding, parce que tu m'as dit que c'est quelque chose...
C'est un grand saut, là.
Ouais, c'est un grand saut, mais c'est ça qui t'a fait vibrer quand t'étais jeune. En tout cas, c'est les premiers émois. Comme
exactement.
Moi, quand j'écoutais de la disco ou avec les, j'entendais que les sons de la basse et à travers les murs. Voilà. Et toi, c'est un morceau d'Otis Redding.
Ouais, exactement, d'Otis Redding. Voilà, mon père avait une cassette avec un live d'Otis Redding et c'est vrai que je l'écoutais très, très, très régulièrement. Et puis, il y avait une batterie à la maison et je m'amusais à taper dessus avec le casque en même temps.
Okay.
C'est génial.
Allez, on s'écoute un morceau d'Otis Redding. Tout de suite, ça s'appelle Trump.
Tramp.
What you call me?
Tramp.
Well, you didn't.
You don't wear continental clothes or Stetson hats.
But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm a lover.
A tramp.
What?
That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercs, 3 T-Birds, Mustang. Oh, I'm a lover.
Proved it by me.
My mama was. My papa too.
What?
I'm gonna tell you one
thing. Tell me.
Juste incroyable ce morceau de Otis Redding.
Il est fou et puis surtout que ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est sorti quelques mois après le décès tragique.
Oui,
Otis Redding.
C'est ça, parce que Otis Redding nous a quittés en 67, donc ça fait
le 10 décembre.
Ouais, ça fait un certain temps. Ouais. Et celle qui chante, Carla Thomas, elle est juste incroyable. Et puis, moi, elle me fait penser à une artiste, je suis sûr que tous les jeunes connaissent maintenant, une artiste qui s'appelle Lizzo, tu sais, quand elle fait, je crois que je l'ai récupéré ce morceau-là, et je l'ai mis où, Lizzo ? Ah, je ne sais plus, oh, je l'avais préparé. Eh ben non, je ne l'ai plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Lizzo, quand elle chante Juice, son morceau Juice, elle a la même voix, elle harangue le public de la même manière. Et,
ah ouais, la tradition soul, là.
Ouais, juste incroyable.
67 et ça rappe en 67.
Ouais, c'est ça, c'est juste, ouais, c'est incroyable.
Ouais.
Et puis, ce qui est incroyable aussi, c'est de s'imaginer qu'à cette époque-là, en fait, les artistes comme Otis Redding, Ella Stax ou La Motown, ils enchaînaient les disques les uns derrière les autres.
Bien sûr.
Et cette créativité qu'il fallait pour pouvoir dégager à chaque fois un titre, avoir les musiciens qui allaient derrière, je pense à Donald Duck et puis voilà, tous ces gens-là qui étaient derrière.
Mais je pense qu'ils avaient tellement de choses à dire que ça sortait en fait au kilomètre et ça sortait bien en plus.
Ouais. Ok, donc ça, c'est ta jeunesse. T'as quel âge quand tu découvres ce morceau-là et que tu joues de la batterie là ?
Ah, faudrait demander à mes parents.
Mais t'es quoi ? C'est plutôt 3 ans, 5 ans, 10 ans ?
Oh bah non, à 3 ans, non, c'était un peu plus. Allez, je dirais 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça.
D'accord.
Les années collège quand même.
Ok. Ouais. Ok. Et en fait, en préparant, j'ai vu que en fait, t'as commencé la musique relativement, enfin très très jeune, enfin beaucoup plus jeune que moi. Parce que tu l'as commencé à 3 ans, c'est ça ?
J'ai commencé la musique à 3 ans, une approche musicale, on va dire, à 3 ans, où j'allais tous les mercredis passer l'après-midi chez une super femme, voilà, qui me montrait des choses et on goûtait, on rejouait, on remangeait des gâteaux, on rejouait. Enfin voilà, j'ai commencé la musique comme ça.
Okay.
Et puis après, ça n'a pas été l'autoroute, hein, je t'avoue, c'était pas tout droit. Hein.
Mais c'était sur un instrument bien particulier.
Oui, c'était ce qu'on appelle l'électone.
L'électone, donc.
Alors c'est comme un orgue.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai un clavier à la main droite, un clavier à la main gauche. La pédale de volume au pied droit et les basses au pied gauche.
Oui.
Voilà. Et donc, en fait, t'es assez autonome avec cet instrument.
Mm-hmm.
Et du coup, et voilà.
J'ai vu, on en trouve maintenant. Je suis sûr que nos auditeurs, ils voient cet instrument-là. C'est l'espèce de grand buffet là, avec les deux.
On en trouve chez Emmaüs plein.
Ouais, moins de 50 euros, vous pouvez en trouver un chez le Bon Coin. Mais je me suis dit, mais t'as joué ça, mais quelque part, est-ce que ça, c'est pas le début du Gérald qu'on connaît maintenant dans son Labum?
Ah, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est un peu ça, ouais.
C'est-à-dire que le petit musico, tu vois, il vient toujours chercher.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est pas faux, parce que je mettais mon casque, en fait, et j'avais tout à portée de doigt. Oui. C'est-à-dire que...
Parce qu'il y avait même une boîte à rythme dedans.
Bien sûr, donc, et puis tu pouvais lancer des breaks, tu vois. Donc, j'avais plus de main, mais je m'arrangeais, en fait, pour aller lancer un petit break, pour changer de pattern. C'était très rigolo et complètement autonome. Je prenais l'instrument, enfin, mes parents m'emmenaient jouer, je me souviens, là, dans la maison de retraite de mon arrière-grand-mère, jouais et tout le monde était heureux, quoi.
J'ai retrouvé l'ISO, je me...
Ah, super.
Donc voilà, donc toi tu commences avec l'Electone, ta formation musicale, cette gentille dame juste à côté de chez toi qui te donne tes premiers cours, qui te forme au clavier, qui te forme aussi à la musique du coup à la lecture, la lecture.
Non, c'était vraiment une approche sensorielle, hein, on va
D'accord.
dire. Après, tout ce qui est théorie, c'est venu avec l'intégration en école de musique.
D'accord. Hein.
J'y suis arrivé en école de musique, je suis reparti, j'ai fait un peu des allers-retours, tu vois.
Okay.
J'avais un peu de mal, je pense, à me trouver dans cette formation. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Et puis voilà, l'entrée au lycée, clairement, ça a été le déclic.
D'accord.
Parce que rencontre avec des gens de mon âge qui étaient en conservatoire.
Okay.
Et puis, en fait, je me suis aperçu que j'avais peut-être ma place aussi dans ce genre d'école. Et j'y suis rentré tard. Hein,
ça veut dire que tu étais dans un petit village, c'est ça ?
Non, on ne peut pas dire que c'est un petit village. J'étais dans la première couronne d'Orléans.
D'accord.
Voilà. Okay. Il y a ce qu'il faut. Hein,
okay.
Vraiment.
Okay, okay.
Et même une boulangerie.
C'est tellement rare de trouver des boulangeries. Moi, je suis à Antoigny, il n'y a plus de boulangerie. T'as qu'à y avoir. Mais ok, donc voilà. Donc tu découvres l'Electone. Voilà, au moins jusqu'au lycée. Au lycée, tu vas rentrer au conservatoire. Mais pendant cette période-là, tu l'as dit rapidement, mais tu as joué en EHPAD.
Oui, et puis j'ai fait quelques balles.
Et t'as fait quelques balles.
Ouais, j'avais 10 ans.
T'avais 10 ans.
Incroyable.
Et puis on s'endort à 10 ans, c'est ça, quand il est 3h du matin ?
Bah oui,
c'est ça.
Je sais pas où t'as vu l'info. Mais
j'ai des gens qui connaissent.
Exactement, on s'endort un peu, forcément. Et je te montrerai là sur mon téléphone, j'ai une vidéo de moi justement.
Ah ok.
Ouais, j'avais 10 ans.
À 10 ans ?
Ouais, c'est rigolo, ouais. Et je faisais les passes au double.
Ah oui, oui, les passes au dub, oui, mais forcément, ouais, oui, oui.
Exactement, mais balle, franchement, quand je revois la vidéo, ça tricote quand même pas mal. Et c'est pas mal, okay. Franchement.
Bon, ça, c'est ton époque, donc ça, c'est ce qui t'a marqué, ta jeunesse, la découverte de l'instrument, la découverte de Otis Redding, de la Stax, etc., etc. Mais après, il y a autre chose qui vient de faire vibrer, c'est le jazz.
Oui, c'est le jazz. Effectivement, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. Hein. Enfin,
ouais.
Tu sais ce que c'est, hein, la vie, la musique, c'est on rencontre une personne, on fait un bon bout de chemin avec. Ah, tu fais écouter des trucs, après tu fais ton chemin avec, tu rencontres une autre personne, enfin,
ouais.
Voilà. Ah ouais. Chick Corea.
Chick Corea, voilà.
Ah ouais, ouais, ça, le CD, je l'ai usé. Hein.
C'est vrai ?
Ouais.
J'ai même pas noté de quelle année ce titre-là.
Il est de 72.
72,
c'est
merci.
Le premier album du duo, Piano Vibraphone.
Oui.
Voilà, donc...
Juste Chick Corea, donc, au piano, et puis Gary Burton au vibraphone.
Voilà.
C'est un morceau de Steve Swallow.
Exactement.
Voilà, Steve Swallow, bon, c'est un bassiste que, voilà, qui est très connu, notamment pour ceux qui connaissent le Real Book.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est à l'origine du Real Book, en tout cas les premiers écrits. Mm-hmm. C'est lui qui les a gentiment donnés aux élèves de Berkeley.
Ouais.
Voilà, moi j'ai eu je me la pétais un peu.
Vas-y.
Moi j'ai eu la chance de voir Steve Swallow sur scène à Tours.
Ok.
À un concert avec... avec le guitariste John Scofield.
Ah ouais.
Ouais.
Ça va, moi, la peinture.
Bah ouais, j'étais juste impressionné. Alors, il est assez vieux maintenant, Steve Swallow. Même là, quand je l'ai vu, c'était il y a 3 ans. Donc, il est plus près des 80 ans que voilà. Mais c'est juste impressionnant d'avoir une telle légende sur scène. C'est,
bien sûr.
John Scofield en est une autre. Hein.
Ouais.
Mais Steve Swallow, c'est impressionnant. Voilà.
Complètement.
Donc ça, c'était Premiers Amours, Chick Corea.
Ouais.
Et alors, en regardant un peu ce morceau-là, j'ai vu qu'il y avait, sur les premières vidéos, quand il y a les analyses de ce morceau-là, savais-tu qu'il y avait une Sixte napolitaine à l'introduction de ce morceau ?
Bah écoute, non, j'ai pas fait l'analyse du morceau, et je l'ai pas entendu, honte à moi.
Non, mais en fait, les 4 premières mesures, c'est vraiment la bémol, tu vois, la bémol ré 7, voilà, et sur le sol mineur 7,
okay.
et vraiment, t'as cette tierce napolitaine, alors sauf que le renversement se fait pas sur le premier accord, pas sur le deuxième accord, mais sur le premier accord,
okay.
Mais n'empêche que c'est une sixte napolitaine.
Super.
Voilà.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'il me cite ce premier morceau, Et comme je sais que tu as une énorme culture musicale, que tu as une énorme culture en FM, je me suis dit, mais c'est peut-être pas anodin qu'il me cite ce morceau-là, parce qu'effectivement, il y a cette cadence-là qu'on voit arriver. Et je dis, ça se trouve, c'est peut-être pour ça que ça lui a plu.
Écoute, c'est peut-être ça, mais tu vois, vraiment inconsciemment. Hein.
D'accord.
Ouais.
Okay.
Il est beau ce morceau, c'est super, tout l'album est magnifique. L'album Crystal Silence.
Ouais, un album de CM, ouais. Moi, j'aime plus Chick Corea dans l'esprit jazz prog, toi.
Ah oui, Electric Band.
Mais, ouais, mais franchement, c'est pas mal.
C'est ça, puis c'est très ouvert sur la musique du monde aussi. En fait,
ouais.
C'est ça qui me plaît dans Chick Corea. Hein.
Okay.
C'est qu'il n'y a pas de frontières.
Oui.
Mais
oui,
pas du tout.
Oui, oui, c'est l'époque de la fusion. Voilà.
Complètement. Ouais.
Et puis, alors après, tu m'as cité un autre artiste, un autre pianiste. Alors...
Ah ouais, le son, quoi, l'articulation.
Et on retrouve un peu comme tout à l'heure Roger Muraro, c'est très précis.
Ouais,
très...
Exactement. Et c'était enregistré à Paris, ce morceau.
Ah oui.
Ouais. En fait, c'est un album live donc, de Kate Jarrett en trio, avec Gary Peacock et Jack DeJohnette. Et en fait, ils ont fait ce CD qui s'appelle Standard Live, et ils ont enregistré tous les concerts, tu vois, de leur tournée... je sais plus aussi, en 85, voilà.
87, moi j'avais.
87.
Mais peut-être. En fait,
alors, c'est sorti en 87,
ah, okay.
Mais ça a été enregistré sur la tournée.
D'accord.
De 85. Et du coup, bah, ils ont pris les meilleures versions, en fait.
D'accord.
Tu vois, voilà, ça se faisait, Bill Evans faisait ça aussi.
Mm-hmm.
Et du coup, ce morceau-là a été enregistré.
À Paris, donc.
À Paris, ouais.
Ok. Et t'as un point. Vous avez un point commun avec Kiss. Vous avez débuté le piano tous les deux à 3 ans.
Ah, je n'y avais pas.
Mais si.
Bah ouais, mais j'ai pas sa carrière.
Mais tu sais pas, t'as pas son âge.
Ouais, non, mais attends.
Ça peut venir, on sait pas. Et qu'est-ce qui t'attire chez ce pianiste, chez cet artiste-là, qui j'arrête.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on comprend tout, on entend tout dans ce qu'il joue.
Mm-hmm.
Et puis ces envolées lyriques. C'est un improvisateur hors pair. Vraiment, il utilise en plus un matériel harmonique qui n'est pas ultra compliqué, mais par contre, il l'utilise parfaitement bien. Et surtout, c'est ultra mélodique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre l'harmonie et la mélodie au-dessus. C'est tout un, comment dire, un espèce de tissu mélodique, tu vois, qui forme l'harmonie, voilà, ce qu'on appelle une écriture horizontale. Et ça, il le fait... Ça sort de lui comme ça.
Mais c'est aussi un grand technicien. C'est quelqu'un qui passe des heures et des heures à pratiquer les gammes, à pratiquer des doigtés bien particuliers.
Complètement.
C'est un fou du travail technique. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça, je pense, que je pourrais jamais être Keith Jarrett. C'est que je travaille plus assez mon piano.
Ouais. Et quand on a préparé ça, je me souviens, ça m'a marqué. Hein, désolé de vous décevoir, mais quand tu m'as dit, moi, ça m'a marqué. Donc, quand tu m'as dit, moi, je peux plus, j'ai plus la foi. Et j'ai plus l'envie de travailler comme ça, j'ai plus envie de m'acharner sur mon piano pendant des heures et des heures pour passer juste deux notes, un passage de pouce. Et...
Ouais, c'est vrai, et puis c'est du passage, hein, tu sais, il y a des étapes dans la vie, mais c'est vrai que là j'ai envie de passer mon temps à faire autre chose.
À faire de la composition.
Puis, ouais, de la composition et à profiter de mon temps autrement. J'ai énormément travaillé, vraiment, beaucoup, beaucoup travaillé. Quand j'ai décidé justement, tu vois, d'en
faire mon métier. On est passé rapidement là-dessus, mais tu as un parcours, donc tu as une formation, on va dire, de conservatoire. Tu as fait le conservatoire, tu as fait la formation à l'école normale
de Paris.
Et là, tu jouais 10 heures par jour.
Ah bah ouais, c'était ce rythme-là. Il fallait que je mange du répertoire. En fait, je suis rentré au conservatoire à 17 ans, c'est un peu tard si on veut en faire carrière, si on veut faire carrière dans le piano classique. Et du coup, clairement, j'avais un retard. À combler. Donc j'ai travaillé et ça marchait très bien parce que j'ai sauté des étapes. Mais après, effectivement, c'est le grand vide. C'est qu'est-ce que je fais de ça, en fait. Est-ce que je suis prêt aussi?
Est-ce que tu veux être concertiste? Parce que c'est la voie toute tracée quand on sort des conservatoires un peu.
Non, il y a très peu de concertistes qui... c'est pas ça. Il y a très peu de personnes qui rentrent en conservatoire qui deviennent concertistes. Ça, c'est une évidence. Dans la vie d'un conservatoire, c'est peut-être une dizaine. Mais clairement, tu vois, quand t'es ado, quand ça marche, quand on te pousse, forcément, tu te dis, allez, et encore une étape, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis à un moment donné, en fait, tu te poses des questions et tu te dis, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, et puis t'écoutes tes proches, forcément, ceux en qui tu fais confiance. Et puis, à un moment donné, tu prends une autre voie et puis tu t'aperçois quelques années après que c'était la bonne voie quand même.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur quelques années là au conservatoire. Moi, je suis ravi de t'avoir rencontré et je suis sûr, comme la plupart des élèves qui t'ont rencontré, t'amènes vraiment quelque chose.
C'est gentil. J'en ai pas tué encore. Enfin, j'en ai pas tué du tout.
Bon, ça c'est ta période de jazz. Tu as joué un peu de jazz en quatuor, en trio, toi-même. T'as monté une formation de jazz?
Oui, un petit peu, effectivement, mais je suis pas un jazzman. Vraiment, je suis pas un jazzman dans l'âme. Je préfère l'écouter que le jouer.
Ok.
Ça c'est clair.
Ok.
Et j'ai fait un peu de jazz. Le mardi soir, je me souviens, j'allais au caveau à Orléans. Il y avait une boîte de jazz où ça buffait. Et ça buffait terrible. Hein. Vraiment.
Parce que tu as eu la chance. On a passé rapidement, mais à Orléans, en fait, t'étais tout proche de Paris. Donc, il y avait, je suppose, nombre de Parisiens qui devaient faire l'aller-retour.
Qui descendaient. Ce conservatoire, il est juste incroyable.
Ouais.
Vraiment, les profs, c'était des légendes, quoi. C'était des légendes de la pédagogie, vraiment. Et ça, pareil, tu t'en rends compte après, quand tu fais tes études. Tu dis, j'ai pris des cours avec lui, avec elle.
Je dirais la même chose, moi, dans 10 ans, quand on verra Gérald dans une bande-annonce.
Exactement. écoute, j'espère. J'espère. Et donc, Orléans, il y avait plein de personnes de mon âge, ou un peu plus jeune, ou un peu plus vieux. On faisait les mêmes études. Il y avait une espèce d'émulation énorme dans ce conservatoire. Au-delà des profs qui étaient exceptionnels, vraiment cette émulation. Je peux pas dire qu'on se tirait la bourre, mais il y avait un peu ça aussi, quoi.
Compétition, au moins une compétition.
Ouais, une espèce de compétition très saine, mais effectivement, on jouait un peu des coudes, quoi.
Donc ça, c'est le jazz, parce que c'est deux morceaux de jazz, et On entend Cash Jarrett derrière.
Ah ouais, qui
crie dans son micro, dans son
cadre. Particularité. Ouais.
Voilà. Et puis il y a un autre morceau aussi que tu m'as, un autre artiste, un autre pianiste que tu m'as cité, c'est Brad Meldo. Mmh. Mais le morceau que tu m'as donné, il est un peu particulier parce que c'est pas du jazz. Enfin, c'est pas une composition de jazz.
Bah non, en fait. C'est le rassemblement de deux artistes, enfin de deux entités que j'adore plus que tout, Brad Meldo. Et puis Radiohead.
D'accord.
Voilà, et là on entend Exat Music. Voilà. Radiohead, c'est énorme pour moi, vraiment. Et je pense que ça l'est aussi pour Brad Meldo parce qu'il a fait plein de covers, enfin il a repris plein de Radiohead en trio du coup, avec en basse-bat, piano. Et là on entend Exat Music justement, fort film.
C'est juste incroyable, hein, ce pianiste Brad Meldo et la contrebasse avec Larry Grenadier. Le batteur aussi assure derrière. Aussi. Hein, mais vraiment, il y a du son. C'est du jazz que moi j'aime, qui est très pur, qui s'écoute tout naturellement. On a envie d'avancer. Mmh. Et puis, donc tu disais, tu l'as vu en concert, Brad Meldo ?
Oui, plusieurs fois. Ouais.
C'est vrai ?
Des formations un peu inédites, en guitare-voix avec... n'importe quoi. En piano-guitare avec Pat Metheny, jazz à Vienne.
Ok.
Et puis en duo de piano avec Baptiste Rotignan.
D'accord, ok. Ouais. Ah oui. Ouais, formidable. Ouais. Moi, j'ai jamais eu, je crois qu'il est passé à Châtellerault, mais je suis pas sûr, j'arrive pas à retrouver d'écrit.
J'ai passé à Poitiers aussi il y a quelques années au TAP.
Ok. Ah, oui. Ok. Alors c'était peut-être à cette occasion que j'avais son nom, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion. Mais c'est vrai que c'est cette composition, les compositions là, puis la reprise donc de Radiohead, qui est aussi un groupe, un artiste
que j'apprécie beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce qui t'attire chez Radiohead?
C'est nos limites.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un aplomb. Enfin, ils n'ont plus rien à prouver dans ce métier.
Ouais.
Ils sortent encore des albums, je ne sais pas où ils vont chercher leur inspiration. Mmh. C'est toujours ultra mélodique. Ça marche très très bien. On a l'impression d'entendre de la chanson, tu vois, vraiment radiophonique. Et en fait, quand on analyse le truc...
Parce que c'est ça qui est incroyable avec Radiohead, c'est qu'on croit, on se dit, tiens, c'est un 4-4 avec les 4 accords magiques. Ouais. Et puis voilà, c'est sa guitare, son piano, il chante. Et pas du tout, il n'y a pas une mesure qui est à peu près écrite correctement. Il y a toujours du 3, du 4, du 5, du 6.
Exactement, avec des carrures aussi mélodiques. Là, ce qu'on entend, la Knive Out, en fait, en plus, les paroles sont complètement délurées. La structure en fait, le mélodique en fait, elle n'est pas sur 4 mesures ou 8 mesures, c'est sur 5 mesures. Harmoniquement, il y a du chromatisme, on passe sur un mode qu'on n'utilise pas d'habitude, enfin, et ça passe.
Oui, parce que moi, c'est ce que je te disais, moi j'ai écouté ça quand j'étais très ado, j'avais très peu de formation musicale, mais j'entendais ça, je dis, c'est un groupe de pop. Comme si j'écoutais du U2 un peu bizarre, mais en fait, mais non, pas du tout, parce que c'est très loin de U2 en termes d'harmonie, de travail,
de mélodie.
Ça n'enlève rien à U2, hein, je
veux
pas, mais voilà, le travail harmonique.
Complètement. Et le nombre d'artistes qui sont inspirés après, si tu fais l'analyse avec Coldplay à côté,
tu vois,
c'est vraiment flagrant.
Oui.
Quoi.
Voilà, ça.
Ouais, c'est pour ça que ça a beaucoup été repris par des jazzmen, parce qu'il y a vraiment de quoi se mettre sous la paluche. Quoi.
Bah, oui, effectivement. Donc ça, c'est voilà, le côté Radiohead, ce côté cérébral finalement de la musique un peu.
Ouais, bah oui, du coup ça me plaît.
Ouais.
Ouais, le côté un peu mat rock, mat rock. Faut que ça soit quand même musical. Faire du mat rock pour que ça soit du mat rock, moi ça, je vois aucun intérêt en fait, dans cette musique-là.
Ok.
Et là, ça l'est pas.
Et puis donc voilà. Et puis pour terminer ce petit voyage avec toi, avec tes inspirations, Gérald, avant de passer au live là qui nous attend d'ici quelques minutes, je t'avais demandé de me proposer un morceau, un titre, un album de quelqu'un de nous faire découvrir quelqu'un. Mm-hmm. Et puis donc, écoute, on va écouter l'artiste que tu m'as envoyé. On va écouter ça ensemble. Et puis tu nous en parleras un petit peu après.
Por agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. El amanecer, cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. ¿Dónde somos? Dime. Y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Y por
Il est est impressionnant aussi, cet artiste, je connaissais pas du tout, moi, du coup. Tu nous présentes, Gérald ?
Ben oui, en fait, tu vois, il sort de ma période folk.
Ah oui ?
Je suis tombé dessus, ben voilà, comme tout le monde, hein, on écoute des playlists sur Spotify.
Ouais.
Et puis, quand j'ai écouté ce morceau, tout de suite, j'ai regardé qui c'était. Et alors, il chante en espagnol, mais c'est un Suédois. C'est très particulier.
Un Suédois qui chante en espagnol.
Voilà.
Mais c'est bel accent. Moi, j'ai pas cet accent-là d'espagnol.
Ah ben non. Moi, j'ai pas d'espagnol, du coup. mais sa langue maternelle est l'espagnol.
Ok.
Voilà.
Okay.
Et en fait, bon, j'ai creusé un petit peu. Donc, il s'appelle José González.
Mm-hmm.
Cet album-là est sorti en 2021, qui fait partie de l'album. Enfin, le morceau fait partie de l'album qui s'appelle Local Valley.
Mmh.
Et en fait, il a été enregistré, il a été travaillé, composé pendant le confinement.
D'accord.
Voilà. Et en fait, c'est tout un album où il se pose plein de questions en fait assez existentielles.
Ok.
Voilà. Où je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite en fait, mais c'est en faisant justement des recherches.
Mmh.
Et je trouvais que la correspondance était juste incroyable avec ce que j'ai pu vivre l'année dernière. Tu
D'accord,
vois,
ouais.
Me poser des questions,
oui.
Qu'est-ce que je fais de
cette
ma vie,
transition, ouais, comment on passe de professeur reconnu, directeur du département des musiques actuelles. Comme je l'ai dit en introduction, en fait, tu as enseigné voilà, un peu partout. La plupart des étudiants là, qui sont sortis des conservatoires au cours des dernières années, ils t'ont forcément croisé. Tu les as forcément à un moment ou à un autre coachés.
Et j'en ai eu pas mal, ouais. Des étudiants, des grands étudiants, ouais, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. Ouais.
Et c'est un déchirement pour nous, petits élèves, hein, de te voir partir. Mais écoute, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux.
Oui, voilà. Et puis la relève est cool.
Ouais.
Voilà.
Parce que ouais, il y a des élèves qui comme ça te viennent.
Des élèves qui, alors forcément, je vais citer les grands, tu vois, qui s'en sortent et qui font super carrière.
Ceux qui sont de carrière.
Mais en fait, moi, je pense surtout en fait aux élèves qui ont peut-être arrêté en fin de cycle 1.
D'accord.
Mais en fait, on voit dans leurs yeux qu'il y a un truc qui a changé dans leur vie, quoi.
D'accord.
Parce qu'on les a emmenés faire des projets, on les a emmenés faire des tournées, enfin des premières parties, et on sent qu'il y a eu un virage, tu vois, dans leur vie. Grâce à la musique, grâce à cette salle-là, Le Grenier, grâce au groupe, etc.
Mmh.
Après, oui, des grands élèves, je peux citer,
Pierre-Éli
Abergel, forcément, qui joue là actuellement, là, tu vois, il est en plein show.
Il est
à Bogador en train de faire le Roi Lion.
D'accord.
Voilà, c'est le batteur du Roi Lion.
Et puis pas que, parce qu'il fait aussi, il a fait Blow il y a quelques années.
Il a fait Colors in the Street. Il a accompagné Marina Kaye aussi.
Oui. Ouais.
Voilà. Donc.
C'est une fierté un peu pour toi d'avoir eu un moment cet élève.
Oui, c'est une fierté. Et puis c'est un très bon ami maintenant. Et des élèves, en DEM, j'en ai eu quelques-uns comme ça, qui s'en sortent vraiment très bien.
Ok. Bon. Et Gérald, on a dit qu'on ferait un peu de musique live, mais j'ai encore.
Mais j'ai
plein de. Parce que il y a plein de sujets à aborder avec toi. Une heure, c'est trop court. Je pense qu'on va déborder un petit peu. Et puis, d'ailleurs, j'en profite, ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs amis à nous qui nous écoutent ce soir.
Ouais.
Et puis, comme on est en direct, n'hésitez pas à réagir sur la page du Petit Musico. Ça laissait un petit message. Voilà. On vous répondra. Avec plaisir, donc le Petit Musicos sur Facebook. Je suis pas très très Insta, moi. Faut que je m'y mette maintenant que j'ai mon émission de radio. Je me dis ce matin, il faut quand même s'y mettre, faut se pousser un peu.
Exactement.
Faut arrêter de jouer le vieux jeu là. Bon, et non, revenons à Gérald. Donc Gérald, quand même, il y a au moins deux ou trois sujets que je voulais évoquer avec toi. Raconte-nous quand même cette histoire de Deep Purple. Comment on en arrive à faire la première partie de Deep Purple devant 10 000 personnes?
Ah bah écoute, ça arrivait très rapidement.
Ouais.
Parce que...
C'est genre, le stress monte pendant 3 mois, je vais faire la tournée avec Deep Purple. C'est quoi? Parce que j'imagine pendant 3 mois,
rapidement.
Là, tu dois...
Et en plus, non, il n'y avait aucun stress du tout. Tu vois, enfin bon, toi qui as fait de la musique, tu sais très bien que... Plus il y a de monde, moins on stresse.
Oui.
Là, par exemple, je vais jouer tout à l'heure, je suis méga stressé. Surtout que je me suis mis une balle dans le pied en faisant écouter Chick Corea qui est Jared, quoi.
Et c'est pas grave.
Ah, c'est comme ça. Oui, en fait, c'est mon ami depuis une longue date, là, Olivier Aiello. Hein, je salue.
Qu'on embrasse, Olivier. J'espère qu'il nous écoute. Ouais, forcément,
je pense qu'il nous écoute. Ouais, ouais. Et puis là, il est en train de sourire en faisant.
Comme s'il était sur son siège de batterie.
Exactement. Et il m'appelle le lundi soir pour me demander ce que je faisais en fait le week-end quelques jours après, quoi,
ouais.
pour faire les premières parties de Deep Purple en Allemagne. Bon, ah j'ai dit ouais, ok, c'est ça.
On est le 1er avril, c'est bon, Black Sea Lord.
Ouais, exactement. Alors, c'était au mois de décembre.
D'accord.
Mais du coup, ouais, c'était sérieux. Donc, lui, il a fait la direction artistique du truc. Et donc, on a accompagné un chanteur violoniste canadien.
D'accord.
Qui s'appelle Marc Anger, qui continue de tourner. Voilà.
Donc, il a violoniste aussi, hein ?
Violoniste, ouais, violoniste, chanteur. Canadien qui avait gagné un télécrochet là-bas.
La Star Academy, c'est ça?
Je crois que c'est ça, ouais.
Star
ouais.
Academy.
Et du coup, donc il avait son band, c'est-à-dire son groupe au Canada, et puis bah, il fallait qu'il ait un band en fait ouais. En Europe.
Souvent, ouais, souvent on fait ça. Ouais.
Bah, c'est ça, ouais, comme ça évite de déplacer tout le monde.
De déplacer tout le monde depuis la transatlantique, ouais.
Exactement, et du coup, bah, ça s'est fait comme ça. Eux, ils avaient déjà tourné. En fait, moi, c'était un remplacement que je faisais.
D'accord.
Et du coup, ils avaient déjà tourné un petit peu en France. Et voilà, ils avaient eu la chance de trouver ce plan-là. Alors, on est parti le jeudi matin, très très tôt. Donc, j'avais quelques jours pour mettre le programme dans les pattes. Bon, ça s'est bien fait. Et puis, go sur scène parce que pas de répète.
Ouais, voilà. Ouais.
Et on
3-4.
Hein. 3-4, c'est parti. Ouais. Mais bon, l'équipe était au top.
Donc, avec Olivier.
Olivier, ouais.
Olivier. Donc là, je ne sais pas si on entend un petit peu en fond sonore, j'ai récupéré un enregistrement de ce fameux concert où on
pirate.
Te voit. Ouais, je pense que ouais, je ne sais pas qui est-ce. Enfin, en tout cas, c'est disponible sur YouTube, on voit.
Oui, oui,
et on
oui.
te voit effectivement sur la gauche, on aperçoit Olivier derrière ses
ouais,
cymbales.
Exactement.
Enfin, on te voit sur la droite du c'est coup ça. Quand on est spectateur.
Voilà, et en fait, c'était un peu un crash test, hein, c'est-à-dire qu'on devait faire deux dates et après, ça devait être validé par Deep Purple justement pour qu'on fasse toute la tournée européenne. On n'a pas fait la tournée européenne, pas du tout parce que ça n'a pas plu. C'est juste parce que les premières parties, c'est toujours une très compliqué financièrement. Il y avait, alors que c'est des prods monstrueuses, hein, vraiment, mais il n'y avait pas de budget pour financer en fait les premières parties. Donc,
mais quand même, tu as eu l'occasion de rencontrer, de voir, d'apercevoir les
ouais,
musiciens de Deep Purple.
Oui. Incroyable. En fait, ils arrivent. Ils jouaient à 21h, ils arrivent à 20h.
Ouais, ah oui.
Chacun son jet, et puis après le concert, ils repartent chez eux. Et en fait, c'est leur drum tech, bass tech, etc., qui font ouais. leur balance à la place. C'est une machine incroyable.
et donc, avec Olivier, vous avez aussi accompagné un autre artiste qu'on connaît bien sur Châtellerault, puisqu'il
ah, oui.
a vécu quelques années à Châtellerault. Enfin, il habite encore à Châtellerault.
Ouais, il habite à Châtellerault. Oh, oui,
et
ouais.
Donc, on écoute. Moi, j'aime. C'est sûrement mon morceau préféré de Lomé. Donc Lomé,
un artiste
qui
local.
Est d'origine.
Je
me trompe à chaque fois entre le Liban, le jeu.
Eh ben, son père est libanais.
Le Libanais,
et,
c'est
voilà,
ça.
Était libanais et sa mère Togo. Il vient du Togo.
Okay.
Voilà. Et donc il arrivait en France, il devait. Ah, il me l'a dit plein de fois.
Il est arrivé à Dangers-Saint-Romain, ça je le sais.
Ouais,
il est arrivé en famille d'accueil à Dangers-Saint-Romain.
6 ou 7 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et puis après, un parcours incroyable. Il a fait plein de choses dans sa vie. Lui aussi, il en a guidé des gens. Vraiment, il en a sorti. Et puis, bah voilà, on a collaboré, on a travaillé ensemble pendant une grosse dizaine d'années, 11-12 ans, je crois. Et puis, avec diverses formations. Et puis la dernière, le dernier band, c'était avec Olivier, donc à Yellow à la drum, et puis Nicolas Demelan.
Nicolas, que tu avais eu comme élève, du coup.
Que j'ai eu aussi comme élève, à la basse.
Et du coup, avec Lomé, tu as eu aussi l'occasion de faire quelques festivals et de rencontrer des artistes qui t'inspirent et qui continuent de t'inspirer. On parlait de Sofiane Pamart, c'est ça?
Ah ouais, bien sûr. Ouais. Oui, on s'est croisé avec Sofiane sur un coplateau.
Ouais.
Il accompagnait Scylla et puis moi j'accompagnais Lomé.
Ouais.
On a fait un coplateau à Issoudun. C'était très rigolo parce que en fait c'était un moment où il y avait une grève des intermittents.
Ok.
Et